Hier, dans la grande table des idées, la philosophe américaine Nancy Fraser nous invitait à décloisonner la question du genre et à la repolitiser pour un nouveau féminisme inclusif et anticapitaliste. Aujourd'hui, nos invités, les linguistes Daniel Manès et Gilles Siouffi, interrogent le sexisme supposé du français. Dans le féminin et le masculin dans la langue, l'écriture inclusive en question qu'ils ont co-dirigée, ils questionnent à la fois le problème, la langue, porteuse d'inégalités, et la solution au problème, changer notre manière de l'écrire, cette langue. Tout ce qui touche à la langue provoque des réactions épidermiques en France. On va donc voir avec eux où en est le débat aujourd'hui. Bonjour Daniel Manès.
Bonjour.
Et bonjour Gilles Siouffi.
Bonjour.
Vous avez été surpris par la vivacité des débats autour de l'écriture inclusive il y a un an et demi. Ou est-ce que c'était pas surprenant pour nous les Français, Daniel Manès?
Oui, pour ma part j'ai été très surprise parce que... Mais c'est surtout de la mauvaise qualité de ce débat. Et la manière dont très rapidement il a glissé dans l'invective au maximum, ou dans la condescendance, le mépris, le sarcasme. C'est une question certainement intéressante, et c'est à la source de notre travail, c'est-à-dire reprendre le débat de manière différente, ne pas le reprendre de manière polémique.
Et dans la manière dont on a caricaturé, c'est ce que vous dites aussi, les positions de chacun. D'un côté, ceux qui étaient plutôt opposés à l'écriture inclusive, qualifiés de conservateurs, de rétrogrades, et de l'autre côté, ceux qui en étaient les partisans de cette réforme de l'écriture inclusive, qualifiés par les autres de vouloir saboter la langue, voire de vouloir la tuer. C'est un peu ça, dans les grandes lignes, les termes de ce débat, Gilles Siouffi.
Oui, on s'est dit que c'était quand même un sujet important pour des linguistes, qu'il était important que des linguistes s'en emparent, que ça ne soit pas soumis à un simple affrontement idéologique. Et donc on a sollicité différentes personnes pour couvrir un peu les différentes questions que ça posait, parce qu'on a essayé de séparer les questions. Parce qu'il y a des questions qui sont proprement linguistiques, qui portent sur le français, il y a des questions qui sont des questions sociales, et on a essayé de séparer les plans et d'y voir clair un peu, plutôt que de céder à l'amalgame.
Le français, notre langue, est presque une deuxième religion en France, Daniel Manès. Il y a une part de croyance qu'on investit en lui. Il y a aussi une adoration certaine pour cette langue qui est la nôtre. Et puis, c'est une langue qui a sa Bible, le dictionnaire, qui a ses gardiens du temple, les académiciens à l'académie, ses prêtres, peut-être pourrait-on dire, les enseignants, ses apôtres, les écrivains, je ne sais pas comment on peut répartir les rôles. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment une instance qui donne le là et qui décide des pratiques linguistiques.
Mais c'est normal, la langue échappe à toute autorité. Il y a une adoration pour la langue, mais il faut savoir que le français, l'appropriation du français par tous les gens qui vivent sur le territoire de la France, c'est quand même une histoire de conquête. C'est une histoire de conquête avec l'avancée de l'école au XIXe siècle, avec l'avancée de la... Elle est liée à la culture, le français. Savoir le français, c'est pouvoir passer le certificat d'études. C'est un instrument de promotion sociale important. Et je crois, il faut peut-être y aller... Comment dire, avec plus de lenteur quand on dit gardien du temple. L'Académie, Gilles en parlera mieux que moi, mais l'Académie n'a pas l'autorité de fixer la langue, pas plus que le Premier ministre, et Dieu merci, car la langue, elle échappe à toutes les instances passagères. La langue, elle poursuit son chemin, de toute façon.
C'est intéressant parce que vous dites sur le territoire français, en rappelant dans l'histoire ces conquêtes par rapport à la langue. Aujourd'hui, la langue française, c'est aussi ce qui fait lien dans une communauté beaucoup plus large, dans cet espace qu'est la francophonie aujourd'hui, hein, Gilles Siouffi. Hein.
Oui, bien sûr. C'est vrai que la France n'est pas propriétaire du français. En France, on a un peu tendance, malheureusement, à le penser. Et il y a aujourd'hui différentes instances qui s'occupent de la langue française ailleurs qu'en France aussi. Pour revenir sur le rapport à l'Académie, par exemple, ce qui était intéressant dans le débat sur l'écriture inclusive, c'est qu'on a tout de suite sollicité l'Académie là-dessus, comme s'il y avait une instance qui pouvait trancher à un moment donné. Il y a eu une forte attente de normes. Et ça pose question parce que dans l'histoire du français, le français s'est beaucoup standardisé, comme on dit, il est devenu plus homogène. Mais depuis une cinquantaine d'années, il y a un phénomène d'émiettement un petit peu, qui est lié à la francophonie par exemple. Il y a des variétés de français au Québec, en Suisse, qui sont différentes.
En Afrique.
en Afrique, bien sûr. Et donc, il y a une attente de normes plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a peut-être été il y a 50 ans, par exemple. Et je crois que l'épisode autour de l'écriture inclusive a créé une crispation qui est de cet ordre. Vraiment une demande de normes. Mmh. Ce que Daniel et moi, nous ne suivons pas trop. Enfin, nous ne pensons pas qu'il y ait une norme à avoir dans ce... sur cette question.
De normes ou d'autorité ?
Ou d'autorité.
Parce que dans l'histoire, beaucoup de grandes réformes ont-elles été pour vous imposées par le haut ? Ou est-ce que c'est un domaine dans la langue dans lequel les pouvoirs publics interviennent finalement assez peu ?
Je pense que c'est un domaine où les pouvoirs publics interviennent assez peu. Il y a les tentatives des pouvoirs publics. Il y a un appel, par exemple. En 1906, il y a un linguiste génial, un grand grammairien qui s'appelle Ferdinand Bruno, qui écrit une lettre au ministre de l'Éducation et qui lui dit, qui le supplie de simplifier l'orthographe qui est un frein à l'avancée dans les études. Il en appelle au ministre. Et toutes les tentatives officielles de simplification de l'orthographe, à la vérité, elles ont échoué. Il a pourtant une argumentation en béton. Faire avancer la scolarisation, faire avancer le niveau d'études de la population entière. Et il fait une critique assez solide de ce qui, dans l'orthographe, est absolument contestable et mériterait d'être simplifié à l'image de ce qu'on fait des tas d'autres pays. Alors non, moi je ne crois pas, je suppose que tu partages cette idée,
Gilles. Oui, Sophie.
Je pense qu'on croit beaucoup qu'il y a une autorité qui vient d'en haut. Mais c'est plus du domaine de la croyance que de la réalité. Parce qu'en fait, les institutions sont assez diverses. En France, il y a l'Académie, mais qui n'a pas comme objectif, comme le disait Daniel, d'édicter des règles. D'ailleurs, dans la note sur la féminisation des noms de métiers qu'elle a fait paraître en février dernier, elle dit bien, ce ne sont pas des règles, ça n'a aucun caractère contraignant. C'est un greffier de l'usage. Mmh. Elle est censée enregistrer l'usage.
Ça, c'est l'Académie française.
Oui, tout à fait.
C'est une chambre d'enregistrement.
Une chambre d'enregistrement qui valide d'une certaine manière par le fait même de cet enregistrement. Et sinon, il y a d'autres institutions, il y a les commissions de terminologie, il y a les ministères, et puis il y a le Québec, il y a l'Office québécois de la langue française, il y a beaucoup d'institutions diverses d'en haut. Et je dirais que ces institutions peuvent avoir un impact sur ce qui est de type officiel, sur les textes officiels. Mais la langue commune, c'est un autre monde. Là aussi, il y a une confusion, souvent, dans les discours, on confond un peu la langue de tous les jours avec la langue officielle, les textes officiels.
L'Académie française, plus chambre d'enregistrement qu'institution prescriptrice, j'ai le droit de féminiser ?
Oui, très bien,
ça marche. La féminisation des noms de métiers, on se souvient des discussions et des débats qu'il y a eu à ce sujet. Très récemment, l'Académie française s'était exprimée pour la féminisation, prenant acte de ces usages. Écoutez l'académicien Eric Orsona qui était notre invité.
Nous sommes extrêmement attentifs à l'usage. Et il serait idiot de continuer à dire c'est insupportable d'entendre Madame la ministre. Il se trouve que la ministre s'est entrée. Alors il y a un certain nombre de ministres femmes qui préfèrent toujours dire le. Parce que la langue, et c'est ça qu'il faut se souvenir de ce genre de choses, la langue française a immensément de talent, mais pas tous. Par exemple, elle confond l'homme, qui est l'espèce humaine, et puis le mec. C'est-à-dire, en latin, homo et vir. Il y a l'homme. Et donc, on dit l'homme, mais ça ne veut pas dire que ça exclut les femmes, si on prend le grand H. Donc, c'est insupportable. Il y a un neutre implicite. La fonction, normalement, ne devrait pas être liée à un genre. Ce qui serait meilleur, bien sûr, puisque c'est pas un genre. C'est pas parce qu'elle est femme qu'elle a ce rôle-là, c'est pas, etc. Donc, ça serait mieux que ce neutre. Mais comme ce neutre implicite, au fond, n'existe pas, eh bien, on va sûrement féminiser. Mais encore une fois, c'est l'usage qui décidera à la fin.
Alors ça, vous êtes d'accord avec lui. J'imagine que c'est l'usage, au final, qui décide, plus que les institutions. Oui. Daniel Manès.
Avec la conclusion, on ne peut qu'être d'accord, je pense. Avec l'argumentation, certainement pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas de neutre en français. Il n'y a pas de neutre en français. Les mots, les noms sont ou masculins ou féminins. Ainsi est faite la langue. Il y a un neutre en grec, il y a un neutre en russe, il y a un neutre en allemand. Mais il n'y a pas... Et alors, ça vous donne des situations folles, c'est-à-dire qu'il avance en reculant. dans son argumentation. Parce qu'il dit, bien sûr, on va devoir féminiser. Ils ont mis que 30 ans. Ça a été lancé en 1984. Là, ça fait 30 ans.
Tout à
fait. Quelque chose comme ça. Bon, ça donne des situations folles où les avocats s'écrivent encore « Madame l'avocat et cher confrère ». Alors là, on est quand même dans quelque chose où c'est la langue qui résiste et c'est un usage qui est un usage, là, franchement, machiste.
Mais pardon, pourquoi vous dites que ça fait 30 ans qu'ils auraient dû, ou que la question est en marche en même temps? Vous nous dites aussi que l'Académie française, de toute façon, n'est pas là pour donner le là, que c'est pas elle qui décide.
Il y a 30 ans, une commission qui a été montée pour féminiser les noms de métiers, la France étant une exception tout à fait... qui faisait tort de rire les Espagnols, par exemple.
Mais ça prouve que c'est encore important aujourd'hui que l'Académie française mette son tampon sur ce type d'évolution.
Ah, c'est bien qu'il ait accepté. Ouais. Ça nous a fait changer au dernier moment. Moi, j'ai dû changer deux pages du livre parce que je ricanais quand même sur les positions de l'Académie française et de Madame le secrétaire perpétuel.
Et à partir du moment où l'Académie française reconnaît ses usages, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Ça change dans les livres scolaires?
Elle aime bien le greffier de l'usage, c'est-à-dire qu'elle donne une visibilité à quelque chose qui est. Mais vous-même, à plus forte raison, quand vous étiez enfant, vous disiez « ma prof de maths ». Vous ne disiez pas « mon professeur de mathématiques » si c'était une femme. Bon. C'est-à-dire tout ça est un usage qui a tourné l'approviseur ou la... De toute façon, cette tendance à la féminisation, elle épouse le mouvement de la société qui fait que les femmes occupent des postes qu'elles n'occupaient pas avant, tout simplement.
En 2017, l'Académie française s'est dressée comme un seul homme contre l'écriture inclusive, perçue par les académiciens comme une menace, un péril mortel, c'est les termes qui avaient été employés pour la langue française. Là, vous jugez que leur attitude était rétrograde? Sur la forme?
Non. Je pense qu'il ne faut jamais parler de péril mortel parce que ce n'est pas la Syrie. Je pense que là, on est dans toute autre chose. On touche au matériau de la langue. Mmh. Le matériau dont la langue écrite est faite, c'est-à-dire l'organisation des lettres, des désinences, de la ponctuation, le rapport entre l'oral et l'écrit, des choses extrêmement importantes qui nous viennent de très longtemps et que nous transmettons avec 700 000 acteurs qui sont les professeurs qui transmettent. Mmh. Et alors là, c'est complètement autre chose que la féminisation. La féminisation, c'est accroître le lexique. Accroître le lexique là où il n'y avait pas de mots pour désigner une femme qui fait ceci.
Mais c'est intéressant pour ceux qui ont pensé cette réforme, pour ceux qui ont pensé l'écriture inclusive et qui ont introduit cette discussion dans l'Hexagone. Qu'entendait-on corriger avec ce nouveau mode d'écriture?
Alors je pense qu'il y a trois choses différentes. Il y a effectivement la représentation des femmes dans le lexique. Ça, c'est la question de la féminisation des mots, mais elle a été en grande partie réglée. Je pense que l'usage va faire que les formes féminines vont se diffuser de plus en plus. Il y a ensuite la question de la grammaire avec cet accord. Le masculin l'emporte, cette formule qui a été... qui ne se trouve d'ailleurs pas beaucoup dans les manuels, effectivement, mais qui est une sorte de mantra, en quelque sorte, qui permet de résoudre des problèmes de grammaire. Et donc les discussions entre accord par le masculin et accord de proximité, donc ça c'est une question de grammaire qui a été discutée et qui mérite discussion. Et il y a la question du point médian. Et le point médian, là, c'est une question graphique, et je dirais même plus que graphique, une question visuelle. Parce que ça transforme l'écriture d'un mot en un procédé visuel de visibilisation d'un suffixe séparément du mot. Donc là, c'est complètement une autre logique. Et d'ailleurs, cette logique est plutôt une logique de visibilité et pas une logique de neutralisation. Parce que quand on parle de langage inclusif en anglais, par exemple, gender inclusive language, le synonyme c'est gender neutral language. Et ce qui fait qu'on essaie de neutraliser cette différence entre masculin et féminin en anglais. Par exemple, en utilisant des formes épicènes, des formes qui s'appliquent, des pronoms qui peuvent n'être ni he et she, mais un pronom comme you, par exemple, qui est une neutralisation. Alors que le point médian en français introduit au contraire la survisibilité du féminin par rapport au masculin. Ça, c'est très étonnant que ça soit que ça a été pensé de cette manière. Il y a deux langues où ça a été pensé, imaginé de cette manière. C'est l'allemand, sur lequel il y a une contribution dans notre livre, et le français. Mmh. Et c'est là où ça pose, à notre sens, des questions vraiment différentes.
Mais du coup,
et notamment d'apprentissage.
Sur les objectifs, ça vous chiffonne un peu le fait que finalement, cette réforme, plutôt que de neutraliser, elle a eu pour effet d'accentuer l'effet de genre, de donner plus de visibilité à une partie du genre humain, au féminin en l'espèce, et du coup, crée de nouveaux déséquilibres, crée pour vous une nouvelle inégalité. Daniel Manès.
Ben oui, ça nous chiffonne. Enfin, moi, énormément. En ceci que ça part d'une idée fausse sur la langue. Que la langue, elle représente le monde, qu'elle est à l'image du monde, qu'elle est homologue, que le féminin et le masculin de la langue, c'est le féminin et le masculin des humains.
Ça donne une idée fausse de la langue, mais ça donne peut-être une idée plus vraie de la société. Ça fait de la langue un miroir du réel aussi.
Mais on ne peut pas demander à la langue de faire tous les boulots. La langue, elle n'est pas là pour représenter la société, sinon vous en sortiriez pas, comment vous parleriez des autres langues et enseigneriez toutes les autres langues, commencez par le latin qui avait un neutre et même qui avait quatre genres, comme le montre une contribution aussi dans notre travail pour ceux qui s'intéressent à la disparition du neutre en français. Alors, une demande de visibilité. Dieu sait qu'il y a des tas de combats qui sont légitimes, mais que la langue soit porteuse de l'oppression des femmes, c'est un grand pas franchi sans beaucoup de discussions, et c'est ça qu'on a essayé de discuter.
Vous pensez pas qu'on peut changer la langue pour changer la société ? Il peut pas y avoir cet effet d'entraînement.
Ben ça a été fait dans 1984, mais ça marche jamais à long terme. Vous avez vu. Et puis même pendant la Révolution française, où on disait pas Monsieur, Madame, on disait citoyen, citoyenne, gna gna. Bon, vous savez, dans la langue. Elle a son cours, c'est les usagers qui la font. Et c'est magnifique, il y a plein de textes tellement beaux sur ce flot qui passe. Et que de toute façon, heureusement que la langue, elle n'accepte pas toutes les interventions de type idéologique, c'est-à-dire qui sont faites comme des armes de combat, parce que sinon elle changerait tout le temps. Elle passerait son temps à changer. Comment vous liriez encore Stendhal ?
Alors, est-ce que les tentatives de simplification sont aussi des interventions presque idéologiques, comme ça a été le cas avec la réforme de l'orthographe en 90, appliquée bien plus tard par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Je vous propose d'écouter à ce sujet les mots d'Alain Finkielkraut, notre confrère de réplique, autour du mot « oignon ».
Oignon, le mot « oignon » en lui-même est très symptomatique, parce que « oignon », c'est le mot et la chose font partie de notre vie quotidienne. Et on se demande, tout d'un coup, au nom de quoi on lui enleverait son « i ». Des gens, dont je suis, ont eu le sentiment qu'on touchait à un bien commun sans le leur avoir demandé. Donc, les éditorialistes ou les humoristes professionnels ont dénoncé, si vous voulez, la réaction outragée des puristes, voire des purificateurs, qui ne veulent pas entendre parler d'une évolution de la langue. Alors qu'en l'occurrence, on a vu plutôt le peuple s'insurger contre une décision arbitraire venue d'en haut, une décision du château, qui tout d'un coup imposait, pour des raisons incompréhensibles, opaques, une nouvelle orthographe. Il me semble qu'il n'appartient pas à une autorité extérieure, si vous voulez, de décider ce que doit être la langue ou non. Peut-être faut-il entériner l'usage, et là on le comprend quand on met un accent grave à événement, mais pour oignon, on ne peut pas s'abriter derrière l'idée d'une modification de l'usage.
Il parle bien, Alain Finkielkraut, hein, n'est-ce pas ? Vous nous dites, Gilles Soufi, qu'il... Vous nous dites, Gilles Soufi, que nous, les Français, on est quand même passablement rétifs à l'autorité, à tout ce qui viendrait d'en haut, tout ce qui semblerait, comme le dit Alain Finkielkraut, venu du château imposer ces normes-là. Pour autant, sur cette question de la simplification de l'orthographe, est-ce que pour vous, il a raison ?
Alors, en tout cas, son témoignage illustre qu'on est de mauvais rule takers, comme on dit en anglais, pardon d'employer de l'anglais
mais
dans une émission sur la langue française.
Français,
je le fais un petit peu exprès aussi pour montrer que les langues, c'est aussi des mélanges, mais je voulais dire par là, des preneurs de règles, c'est-à-dire des gens qui acceptent des règles, qui entérinent des règles. Donc effectivement, on a un problème avec l'autorité. Et surtout, on a un sentiment de propriété très fort vis-à-vis de la langue. Mais la langue, comme l'a dit Daniel, c'est le résultat d'un brassage, d'une multitude d'usages qui se croisent. Et donc, personne n'en est vraiment propriétaire, même dans la langue commune. Après, je crois qu'il faudrait distinguer entre langue et orthographe. Ça, c'est quand même un point essentiel, parce que l'orthographe est un code graphique qui a été très fluctuant dans l'histoire. Le même mot a pu s'écrire de différentes manières. L'orthographe de l'ancien français n'a rien à voir avec celle de la Renaissance, et qui a complètement changé le système. Et puis, puis au XVIIIe, ça c'est à nouveau. Donc, les modifications de l'orthographe font partie absolue de l'histoire de l'écriture de la langue. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a toujours eu des décisions sur l'orthographe. Les dictionnaires, y compris ceux de l'Académie, sont passés d'une graphie à une autre du jour au lendemain à un moment donné. Et dans toutes les langues, d'ailleurs, on passe de graphie à une autre. Le russe a supprimé des signes. Le turc est passé du jour au lendemain de la graphie arabe à la graphie en lettres latines. Donc le code écrit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus séparé de la langue que ce que l'intervention semblait le faire croire.
En fait, on fait primer l'oralité aussi sur l'écrit en faisant ce type d'ajustement.
Oui.
Ce qui est le contraire de l'écriture inclusive.
Si on réglait cette affaire d'oignon.
Réglons. Bon. On ira s'occuper des nôtres.
Vous savez très bien que populairement, les gens disent les oignons. Et c'est à cause de l'orthographe. En anglais, onion. Bon. Pourquoi il y a IGN? Il y a IGN parce que le français n'avait pas les lettres. Le français qui surgit, bon, on va mettre à partir du 9e siècle, et n'a pas les lettres qui lui convient pour transcrire la langue. Alors il n'y a pas le nye. Alors il y a plein de manières d'inventer comment dire nye, et il y a IGN. Et il faut prononcer oignon. Avouez que c'est dur pour des enfants et des étrangers de voir OI et de prononcer oignon. C'est une exception. Alain Finkielkraut est pris en flagrant délit d'ignorance, c'est tout. Et il faut, je le regrette, dont je vois votre affection pour lui, ben moi oui. J'en ai aussi. Mais aussi, je pense qu'il a de grandes limites. Et voilà, à partir du moment où on dit, comme le GN s'est mis à transcrire le son nye, allons-y et revenons à oignon pour empêcher aux gens de dire des oignons. Voilà. Ou alors si, en ce cas-là, il fallait qu'ils disent en acceptant la forme des oignons. Parce que les gens ont raison, le rapport entre l'écrit et l'oral leur donne parfaitement le droit de dire des oignons.
Donc là, on simplifie.
Comme du persil.
Voilà. Oui. Donc là, on simplifie.
On rétablit.
Ouais. Là où pour vous, avec l'écriture inclusive, on complexifie.
Oui, on complexifie. Mmh. On ne s'occupe que de l'écrit. On ne s'occupe que de l'écrit, c'est-à-dire ça rajoute. L'écrit en français est compliqué, on le sait. C'est une langue très difficile à acquérir à l'écrit. Il faut beaucoup de temps pour les enfants, pour les adultes, pour les étrangers. Et on ne pourra pas changer beaucoup les choses. Parce que les marges sont étroites pour simplifier l'orthographe. Il y en a, mais bon. Alors, l'orthographe inclusive consiste à compliquer considérablement les choses. Il faut voir quel est l'enjeu.
Alors, on va écouter la parole de Margot Collet, qui est responsable des études du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en 2017, et qui disait chez nos confrères d'RTL qu'en fait, non seulement c'est pas si compliqué, mais surtout ça a du sens aujourd'hui.
Je pense que c'est important de rappeler que l'écriture inclusive, c'est pas que le électeur-pointrice, ça peut être aussi de dire les électeurs et les électrices. Quand les femmes composent la majorité de la population, d'ailleurs, ça devrait aller numériquement de soi. L'écriture inclusive, le langage inclusif est parfois caricaturé, alors qu'en fait, tout simplement, ça revient à dire que quand on parle d'hommes et de femmes dans un texte, quand dans un discours on s'adresse à des hommes et des femmes, on peut pas tout accorder systématiquement au masculin et invisibiliser complètement les femmes. On dit souvent aujourd'hui transformer la langue. Mais en fait, il ne s'agit pas de transformer la langue, mais c'est de revenir au fait que les académiciens, les linguistes, progressivement, ont effacé la place des femmes dans l'histoire. La règle du masculin l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. Ça a été instauré à partir du XVIIe siècle. Et en fait, c'est au fil du temps qu'on a invisibilisé les femmes dans la langue et que ça a aussi contribué à ce qu'on invisibilise leur place dans l'histoire.
Voilà cet enjeu, on l'a déjà évoqué ensemble, Daniel Manès, Gilles Soufi. Je rappelle que vous êtes les auteurs de Le féminin et le masculin dans la langue, l'écriture inclusive en question. On les a évoqués sur cette question de la visibilité que le changement de la langue, si on modifiait notre manière en tout cas de l'écrire, entraînerait. Mais au fond, est-ce qu'elle n'a pas tort de dire que dans l'histoire, il y a eu quand même un effet de domination par la langue? Est-ce que le français, s'il n'est pas neutre, n'est pas pour autant sexiste et qu'il emporte encore aujourd'hui les séquelles de cette domination? Daniel Manès.
Le français, c'est une langue. Ce qui n'est pas neutre, ce qui est certain, c'est l'oppression des femmes dans l'histoire. Maintenant, la langue, elle ne porte pas cette oppression de manière directe. Elle n'a pas été, alors là, pardonnez-nous parce que ce serait peut-être long d'argumenter là-dessus, elle n'a pas été instrumentée volontairement pour que le masculin ait cette prééminence dans la langue. Un article d'André Chervel, d'une grande clarté, montre que le masculin est celui qui, et le masculin est celui qui organise le français. On dit pas je parle forte, on dit je parle fort. La parole que j'ai dit, pas avec accord du passé, pardon. J'ai dit une parole, on dit pas j'ai dit une parole. Bref, il montre que ça vient de milliers d'années derrière. Ainsi a évolué la langue, mais le masculin est l'espèce de pilier. Il n'a pas de rapport avec le féminin dans l'organisation de la langue. L'invisibilité des femmes, c'est autre chose, c'est le monde. Moi, je dis très volontiers, quand je fais une conférence, ça fait assez rigoler les gens, je dis « bonjour messieurs, dames ». C'est ma mère m'a appris, quand j'allais dans un magasin, à dire « bonjour messieurs, dames ». Et vous dites « messieurs, dames » aussi, ou peut-être que vous trouvez ça un peu populaire, alors vous ne le dites peut-être pas. Mais « messieurs et mesdames », et on se fiche de la gueule de Gaulle qui disait « française et français », il avait raison. Parce qu'elles avaient le droit de vote depuis 15 ans, même pas. Et il avait raison de dire qu'il s'adressait. Quand on en a besoin, on les fait apparaître. Quand il n'y en a pas besoin, et que le masculin fonctionne comme une espèce de neutre, je dis tous les étudiants sont obligés de s'inscrire avant le 30 septembre. J'ai pas besoin de dire tous les étudiants et les étudiantes sont obligés de s'inscrire avant le 30 septembre.
Donc cette formule qu'on a tant entendue quand on était à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin, il faut pas y voir un retour d'une forme de sexisme ou de misogynie, un retour de bâton. C'est pas un effet de supériorité.
Pas nécessairement. Faut pas non plus trop plaquer de schéma là-dessus. Faut pas surinvestir parce que, en termes grammaticaux, le masculin en français porte deux fonctions différentes. Il porte la fonction d'être un vrai masculin et la fonction d'être un générique. Et ce qui peut être appelé, d'une certaine façon, une neutralisation par ce qui se voit, par exemple, au pluriel, avec cette règle, qui est une règle de neutralisation, en fait. Il faudrait revoir la description de cette règle. Il faudrait pas dire le masculin l'emporte. Ça, c'est une formule qui prête à confusion, parce qu'en plus, on a vraiment l'impression que c'est le combat d'un garçon contre une fille et que c'est celui le plus fort qui va gagner. Donc, c'est vraiment pas la bonne formule. Il faudrait quand même expliquer dans l'apprentissage de ces règles, que c'est pas le masculin, et quitte à même enlever le nom de masculin, pourquoi pas. En tout cas, en latin, par exemple, lorsqu'il y avait un masculin, un féminin et un neutre coordonné, le genre qui l'emportait, c'était le neutre. Donc c'est intéressant de voir que le fait que le masculin le fasse en français, c'est la neutralisation avec les outils du français. Après, l'accord de proximité avec le mot féminin le plus proche a toujours été présent dans la langue française. À mon avis, il n'a pas été barré par des grammairiens qui ont pris une croix et qui ont dit « on n'en veut plus, on veut que le masculin l'emporte ». Ça, c'est une relecture un peu trop idéologique de l'histoire. Et il a été toujours présent, mais il a été toujours minoritaire. C'est un peu comme ça, c'est l'usage. Mais il s'observe encore aujourd'hui. lorsque, par exemple, le dernier mot, le mot féminin est le plus important, celui sur lequel on veut mettre l'accent, on fait l'accord par proximité. Il y a eu des grammairiens qui ont dit aussi, ça dépend de l'oreille. Si ça tombe bien sous l'oreille, on fait l'accord par proximité. Il ne faut pas oublier que la langue a quand même une souplesse et qu'elle doit garder cette souplesse.
Mais étonnamment, on voit aussi maintenant de plus en plus de tribunes qui sont écrites ou signées sous la forme de l'écriture inclusive. On voit aussi certains textes officiels qui ont adopté l'écriture inclusive, et ce, malgré les consignes données par Matignon.
La circulaire que j'ai signée consiste seulement à rappeler ce qui me paraît relever de l'évidence, c'est-à-dire l'idée simple selon laquelle, dans un texte officiel, le français qui doit être utilisé est celui qui correspond aux règles convenues d'écriture du français. Bon, je reconnais que c'est audacieux. C'est la règle. L'usage précède toujours la norme. Je ne rentrerai pas dans une logique de pénalisation ou de réglementation. Mais j'insiste, ce que nos enfants apprennent à l'école doit être la règle commune. Il ne peut pas y avoir, dans tel ou tel établissement, ou par le choix individuel de tel ou tel professeur, des règles de grammaire différentes ou des règles orthographiques différentes. J'insiste là-dessus. J'y insiste. Et nous rappelons que dans les textes officiels, c'est bien le français tel qu'il s'écrit aujourd'hui qui doit prévaloir. Je n'irai pas plus loin, mais j'entends que ces règles simples soient respectées.
Vous évoquiez, Daniel Manès, les enjeux. Ça, c'en est un aussi d'enjeu autour de l'écriture inclusive, garder une norme, une règle commune, notamment pour faciliter l'enseignement à l'école.
Oui, c'est capital, c'est-à-dire... Je me demande comment pendant des siècles les femmes se sont pas senties oppressées par le genre grammatical masculin-féminin. On trouve rien chez Simone de Beauvoir, rien chez Madame de Lafayette, rien, etc., etc., sur les formes de la langue. Mais par contre, l'école, c'est un enjeu et c'est un combat considérable. C'est un combat pour notre société très important. Si on déconstruit l'idée du pluriel, il faut savoir qu'à 15 ans, il y a encore 20% d'élèves qui ne savent pas accorder au pluriel. Si on déconstruit l'idée du pluriel en isolant une lettre par un point, la marque du pluriel, par un point séparé du nom, vous mettez dans la tête des enfants quelque chose qui est invraisemblable. Alors vous allez me dire, les partisans de l'écriture inclusive disent, mais on s'occupe pas de l'école. Alors c'est un paradoxe extraordinaire, parce que si ils disent c'est pas fait pour l'école, alors ils trouvent très bien de laisser l'école donner de mauvaises habitudes machistes et qu'on s'en occupera après. Donc il y a là quelque chose qui est une sorte d'hypocrisie.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Daniel Manès et merci Gilles Sufi d'être passé autour de cette grande table. Le féminin et le masculin. Ah, vous avez commencé par le féminin. Hein. Le féminin et le masculin dans la langue. L'écriture inclusive en question. Cet ouvrage que vous avez co-dirigé vient de paraître chez ESF Éditions. Merci beaucoup à toute l'équipe de la grande table. À Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Antoine Suzarelli et de Mathilde Tonfour. Merci à Marie Placet, à la réalisation avec Nasser Moussaoui. Je vous souhaite un très bel après-midi ou une très belle après-midi sur France Culture.